7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 16 septembre. Bonjour Anaïs Feugard.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, coup de froid sur l'alliance France-États-Unis après l'annonce spectaculaire de cette nuit. La création d'une nouvelle alliance dans la zone Indo-Pacifique et l'Australie qui du coup rompt son contrat à 56 milliards d'euros pour la livraison de 12 sous-marins français. On voit ça en détail après les autres titres.
Un chèque énergie de 100 euros pour près de 6 millions de ménages pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie. En Afghanistan, le retour du redouté ministère de la vertu et de la condamnation du vice. Notre reporter a rencontré l'un de ses responsables. Et puis la déception des footballeurs parisiens à partout hier soir à Bruges.
Et nos invités ce matin à 7h50, Léa.
Écoutez Nicolas, au moins il aime la provocation. Conseiller des princes et des patrons du CAC 40, apôtre du libéralisme, il se présente dans son dernier livre, Ma vie avec Marx, comme le dernier des marxistes français, oui. Alain Minc sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure Léa, à 8h20 on se retrouve pour le grand entretien de la matinale avec l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira. Elle publie ses morceaux de vie comme carreaux cassés, c'est chez Robert Laffont et vous pourrez évidemment dialoguer avec elle. 01 45 24 7000, le standard est ouvert et vous attend.
France Inter.
Quand géopolitique et contrats d'armement se télescopent, certains y laissent des plumes. Coup de tonnerre cette nuit pour l'industrie militaire française. Le contrat du siècle, 56 milliards d'euros conclu par Naval Group en 2016 pour fournir 12 sous-marins conventionnels à l'Australie, vient d'être rompu. L'Australie se tourne vers les États-Unis, on va y venir. Grande déception, réagit Naval Group. Indignation pour le député LR de la Manche, Philippe Gosselin.
C'est une surprise et une très grande déception. C'est environ 500 emplois aujourd'hui, sont plusieurs centaines d'emplois. On parle de alentours de 300 par an qui étaient concernés, mais ça va bien au-delà. On a un parti de cartes, si je puis dire, qui est en train de se redistribuer. Et finalement, on a l'impression que la France est un peu seule sur le bord du chemin. Et c'est ce qui est bien embarrassant.
Les cartes stratégiques rebattues, voilà l'explication. Dans cette zone indo-pacifique où planent les ambitions chinoises, l'Australie se tourne donc vers les États-Unis. C'est l'annonce de cette nuit. Nouveau partenariat scellé par Joe Biden avec les premiers ministres australiens et britanniques qu'il avait confié en visioconférence à New York, Loïc Loury.
Une décision fondamentale, affirme un responsable de la Maison-Blanche, de quoi lier l'Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne, dit-il, pour des générations. Hier, c'est par écran interposé que les leaders des trois pays sont apparus en conférence de presse pour annoncer ce nouveau partenariat et la livraison à l'Australie de sous-marins à propulsion nucléaire, Joe Biden, le président américain. Je veux être tout à fait clair sur ce point. Nous ne parlons pas d'armes nucléaires, mais de sous-marins à propulsion nucléaire, avec un armement conventionnel, une technologie qui a fait ses preuves, qui est sûre. Une technologie malgré tout très sensible que les États-Unis vont partager, preuve du caractère hautement stratégique de cette zone indo-pacifique où la Chine, ici jamais nommée, apparaît pour les Américains comme la menace numéro un. Quant à la France, Joe Biden se montre conciliant. La France en particulier est déjà très présente dans la région. Elle est un partenaire important dans le renforcement de la sécurité et de la prospérité de cette zone. Les États-Unis sont impatients de travailler avec la France et d'autres pays clés à l'avenir. Mais Paris voit ses ambitions dans la région très contrariées. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et Boris Johnson est attendu la semaine prochaine à Washington. Pour la France, c'était l'ennemi prioritaire au Sahel, éliminé sans autre forme de procès par une frappe française. Le chef du groupe État islamique au Grand Sahara a été tué par la force Barkhane. On ne sait pas pour l'instant ni où ni quand, sans doute il y a plusieurs semaines, mais l'Élysée communique aujourd'hui succès majeur contre les groupes terroristes au Sahel. On y revient dans le journal de 8h.
Il est 7h04, un chèque énergie, Anaïs, pour les plus pauvres.
Annonce le gouvernement, pas de coup de pouce pour le SMIC, revalorisé automatiquement à cause de la forte inflation. Mais avec le gaz, l'électricité, l'essence qui augmente, le gouvernement veut éviter une fronde sur ce sujet sensible de l'énergie cet hiver. Alors Delphine Simon, le Premier ministre, va annoncer cet après-midi un geste pour les plus modestes.
5 800 000 ménages modestes vont recevoir dans le courant de décembre ce chèque de 100 euros. Il s'agit dans un délai court de répondre à la forte hausse des prix de l'énergie, plus 8% pour le gaz en septembre. Le fioul suit le même chemin. Quant aux tarifs de l'électricité, ils risquent eux aussi d'augmenter de 7 à 8% en février. Une étape difficile pour les ménages modestes, les plus pénalisés selon Matignon. Pour les aider à passer l'hiver, le gouvernement va donc leur envoyer ce chèque soit par la poste, soit décompté de leur facture par leur fournisseur d'énergie. Aucune démarche à faire, tous les bénéficiaires du chèque énergie le recevront automatiquement. La mesure figure dans le projet de loi de finances pour l'an prochain. À quelques mois de l'élection présidentielle, cette envolée des factures d'énergie préoccupe l'exécutif qui regarde ce qui se fait en Espagne, où les prix ont quintuplé en un an. Quant aux entreprises, c'est un point de vigilance, affirme Matignon.
Les entreprises et les indépendants, en particulier cajolés, là aussi le gouvernement va prendre des mesures pour améliorer leur statut, protection du patrimoine, transmission des entreprises, annonce d'Emmanuel Macron attendue ce matin à 10h. Le gouvernement français s'apprête par ailleurs à autoriser certaines chasses traditionnelles aux oiseaux. À 3 jours des manifestations de chasseurs, le ministère a mis plusieurs arrêtés en consultation pour la chasse des vanneaux ou des alouettes sur la liste rouge des espèces menacées. Voilà de quoi mobiliser les écologistes, appelés à voter à partir d'aujourd'hui pour désigner leur candidat à la présidentielle. 122 000 inscrits pour ce vote par Internet très sécurisé, en dépit des appels à l'intrusion de certains adversaires politiques, comme le Rassemblement National, Laurence Perron.
Mais qu'ils infiltrent, ça nous fait bien plaisir de savoir qu'on fait trembler le RN au point qu'ils aient envie d'infiltrer notre primaire, ironise un cadre écolo. Avec 122 670 inscrits, pas trop de risque, en réalité, de voir le résultat impacté par des hordes d'anti-écologistes radicalisés, rigole une autre. Pour autant, tout a été fait de manière rigoureuse. Le prestataire NéoVote a mis en place un logiciel qui permet d'écarter les profils suspects. Vous ne pourrez pas, par exemple, faire voter un cheval ou vous exprimer deux fois. L'avantage de la primaire en clic sur Internet, c'est qu'elle permet de contrôler les votes en temps réel et de repérer les anomalies. À compter d'aujourd'hui, chaque électeur, chaque électrice, avec son code secret, peut voter. Dimanche à 17h30, il suffira d'appuyer sur un bouton pour clore le scrutin et obtenir les résultats du premier tour. Mais tous l'ont promis, ils feront la campagne présidentielle de la personne adoubée, à l'exception toutefois du centriste Jean-Marc Governatori, qui a déjà dit qu'en cas de victoire de l'écoféministe Sandrine Rousseau, il retournerait à son potager.
Le dramatique bilan des orages dans le sud de la France, inattendu sur le littoral méditerranéen. 9 personnes âgées se sont noyées rien qu'hier, victimes de la houle et des courants marins provoqués par les intempéries.
Il est 7h08, quel bilan pour Parcoursup ?
La procédure sera clôturée ce soir, mais on sait déjà que pour les affectations, c'est mieux que l'an dernier. 591 bacheliers étaient restés sans inscription. Sonia Princé.
Moins de candidats restent sur le carreau. Du point de vue du nombre des affectations, Parcoursup joue son rôle, selon Romain Delesse, sociologue et enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux, qui nuance toutefois.
D'un point de vue strictement quantitatif, Parcoursup apparaît comme étant plus efficace que le système précédent. On considère qu'un choix est satisfait quand l'élève reçoit une réponse positive et la valide. Mais cette réponse positive n'est pas forcément son premier choix à lui. C'est parce que les vœux ne sont pas hiérarchisés. Au final, les affectations sont moins qualitatives, c'est-à-dire qu'elles correspondent moins aux vœux de chacun des élèves. On n'est pas forcément dans un système complètement optimal de ce point de vue.
C'est ce que constate l'UNEF qui accompagne les jeunes sans affectation, même s'ils sont moins nombreux. Mariam Pougetou est vice-présidente du syndicat étudiant.
Justement, c'est des chiffres en demi-teinte, c'est-à-dire que on peut avoir des personnes qui se voient proposer une filière littéraire, enfin dite littéraire en langue par exemple, alors que ils voudraient aller en licence 1 de chimie dans une université. Donc ça n'a pas beaucoup de sens et à l'heure actuelle, on a encore des étudiants effectivement qui n'ont toujours pas d'inscription et qui nous contactent.
Il reste en effet chaque année un nombre incompressible de candidats qui ne trouvent pas de place, souvent de la voie professionnelle et qui finalement décident de travailler en attendant de retenter leur dans Parcoursup l'an prochain.
Plus d'affectations sur Parcoursup, mais des bacheliers mal orientés, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Un dernier dîner avant des adieux. Emmanuel Macron reçoit ce soir Angela Merkel qui quitte la chancellerie après 16 ans à la tête de l'Allemagne. Dossier prioritaire ce soir, l'Afghanistan et la victoire des talibans à Kaboul. Les talibans qui s'efforcent de montrer un visage avenant à la communauté internationale, mais les Afghans, eux, tremblent déjà depuis que le mouvement islamiste a réinstauré le glaçant ministère de la promotion de la vertu et de la condamnation du vice. Il faisait régner la terreur entre 1996 et 2001. L'envoyé spécial de France Inter à Kaboul, Wilson Fache, a rencontré l'un de ses membres.
Mohamed Youssouf, 32 ans, est directeur de cabinet au ministère pour la promotion de la vertu et la répression du vice. Lui et ses hommes nous accueillent dans un petit bureau. Il y a des sourires, de longues barbes et deux kalachnikovs. Ce responsable taliban nous le confie sans détour. Il ambitionne de réinstaurer les châtiments corporels et les lapidations pour les Afghans qui oseraient enfreindre les règles de la charia telles que édictées par le mouvement islamiste.
Lorsque quelqu'un a une relation sexuelle hors mariage, il sera condamné au tribunal avec l'aide de quatre témoins, conformément aux réglementations de l'islam. Mais seulement si les quatre témoins ont la même version des faits. Si l'accusé est marié, le juge décidera d'une lapidation à mort. Si cette personne est célibataire, alors elle sera fouettée. La peine sera exécutée en public afin que cela serve de leçon aux autres.
Il n'y a pas encore eu officiellement d'amputation ou de lapidation car la nouvelle administration n'est pas encore en place, précise ce responsable. Mais également parce que le nouveau régime cherche à être reconnu par la communauté internationale.
Pour le moment, nous n'allons peut-être pas appliquer ces règles car sinon le reste du monde n'acceptera pas l'émirat islamique d'Afghanistan.
Un mois après la prise de pouvoir des talibans, les discours policés font place à des prises de position de plus en plus radicales aux grandes dames de la population afghane. Kaboul, Wilson Fache, France Inter.
Population afghane au bord du précipice, 97% prêt à basculer sous le seuil de pauvreté. Quand la réalité dépasse la fiction, la science-fiction même, nous y voilà, le patron de SpaceX vient d'envoyer dans l'espace les quatre premiers touristes. Ils sont en orbite depuis 2h15 heure de Paris. Voyage à vivre dans le journal de 7h30. Combien de fois a-t-on entendu qu'il ne suffisait pas d'aligner les meilleurs joueurs du monde pour avoir la meilleure équipe du jour? Le PSG qui a aligné pour la première fois Messi, Neymar, Mbappé face à Bruges en Ligue des champions de football n'a fait qu'un match nul. Un partout hier, Alexandre Vaux.
Tout le monde s'attendait à un feu d'artifice hier soir pour la grande première de la MNM sur la pelouse de Bruges. Les Parisiens l'espéraient, les Brugeois le craignaient. Au final, Paris a été une nouvelle fois sauvé par son gardien, Keylor Navas. Quand ces trois stars ont eu beaucoup de mal à se trouver, car il leur faudra certainement plus de temps, prévient l'ancien gardien et consultant football de Radio France, Jérôme Alonso.
Il faut bien comprendre ce que ça implique de jouer avec ces trois joueurs-là. Vous avez trois Formule 1. Aujourd'hui, trois Formule 1 qui ne sont pas réglées de la même manière. Pour l'instant, il y a des disparités physiques, des disparités techniques et surtout tactiques. Il y a des circuits préférentiels à travailler, à trouver. Et encore une fois, c'est des joueurs qui ont très très peu travaillé ensemble tactiquement à l'entraînement. Pour un premier galop d'essai, c'était pas hyper convaincant, mais je reste convaincu que ces trois-là feront très très mal très bientôt.
Dans le sillage d'un Kylian Mbappé encore décisif hier, passeur pour Ander Herrera sur l'ouverture du score du PSG. Lionel Messi a montré quelques fulgurances, Neymar lui a déçu, mais l'ombre au tableau hier soir, c'est aussi la blessure de Kylian Mbappé touché au pied gauche et remplacé après la 50e minute de jeu par Mauro Icardi qui est resté fantomatique.
Allez, pas fantomatique. En revanche, les rouges qui ont battu les jaunes. Nicolas, vous voyez de quoi je parle. Hein, petit clin d'œil à notre compétition maison. France Inter a battu France Info 3-1. Match annuel de foot entre les deux chaînes.
Merci Anaïs Feuga et bravo aux rouges. Dans trois minutes, c'est le zoom aujourd'hui sur les traumatismes psychologiques suite à la réanimation.